Et aujourd'hui, sur les ondes de Medi 1, eh bien, on fait un zoom sur les troubles bipolaires qui peuvent toucher n'importe qui. Et ce, quel que soit le statut social, l'âge ou encore le sexe. Alors, une maladie qui se manifeste souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, pour y voir plus clair. On a avec nous notre spécialiste en psychiatrie, comme tous les jeudis matins, Dr Atman Lorabi. Bonjour.
Bonjour Mariam, bonjour aux auditrices et aux auditeurs et encore une fois, extrêmement ravi d'être avec vous.
Merci beaucoup à vous de répondre toujours présent à cette invitation. Alors je rappelle que vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie et psychodynamique à Casablanca. D'abord, comment est-ce qu'on peut définir ces troubles bipolaires et puis est-ce qu'il en existe plusieurs formes, docteur ?
Alors, le trouble bipolaire est un trouble psychiatrique chronique. Donc, c'est une maladie chronique qui repose en fait sur l'apparition, dont le diagnostic repose sur l'apparition chez un même individu de plusieurs phases de modification de l'humeur. C'est-à-dire qu'on va distinguer des phases dépressives, donc c'est-à-dire avec une authentique dépression caractérisée avec les symptômes médicaux à type de désintérêt, démotivation, de troubles du sommeil, de troubles de l'appétit, de perte de confiance, de culpabilisation, etc. Donc pendant des périodes qui vont durer un minimum de 15 jours, c'est ce qui constitue la phase dépressive. Et puis, quelquefois, soit juste après une phase dépressive ou quelquefois à distance, on va avoir une phase d'exaltation de l'humeur. Hein, c'est ce qu'on appelle les épisodes maniaques, où au contraire, la personne va ressentir un excès d'énergie, elle va être désinhibée, elle va avoir une euphorie, elle va avoir tendance à un petit peu transgresser certains interdits, à dormir beaucoup moins, à manger beaucoup moins et à avoir une vitesse de pensée qui est accélérée. Donc ça, c'est la définition du trouble bipolaire. Et vous le disiez dans votre interrogation, enfin dans votre question, c'est, est-ce qu'il y a plusieurs types ?
Oui.
Ça, c'est la définition du trouble bipolaire de type 1. Il se définit comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait au moins une phase dépressive et au moins une phase maniaque chez une même personne, donc au cours de sa vie. Il y a ce qu'on appelle le trouble bipolaire de type 2, c'est le fait que chez un même individu, il y a toujours donc des phases dépressives, mais les phases d'exaltation seront beaucoup moins prononcées que ce dont je parlais quand j'évoquais la phase maniaque, et c'est comme ça qu'on va parler d'hypomanie. Et l'hypomanie va se définir par une phase de plusieurs jours d'affilée au moins, où on va être accéléré, etc. Mais on va rester socialement compétent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va continuer à fonctionner, que ce soit sur le plan de la vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie sociale, et même, je dirais, qu'il y a même une certaine bonne humeur qui est associée à une augmentation du rendement, donc principalement professionnel, chez ces personnes-là. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que très souvent, ces phases hypomanes sont sous-diagnostiquées. Enfin, on ne les diagnostique pas, les personnes ne se présentent pas en consultation par rapport à ce genre de phase, parce que, comme je le disais, il n'y a pas véritablement de souffrance, que ce soit au niveau de la personne ou au niveau même de son entourage, et c'est quelque chose qui est socialement plutôt valorisé quand on a des personnes qui sont en phase d'hypomanie. C'est des gens qu'on va qualifier de gens super actifs, de gens extrêmement productifs, de gens toujours de bonne humeur, de bout en train, etc. etc. Donc voilà les deux grandes catégories de troubles bipolaires, enfin en tout cas les deux catégories de troubles bipolaires d'après la classification la plus importante. Il y a d'autres classifications qui donnent d'autres types, mais c'est pas très important. En tout cas, ce qu'il faut retenir,
oui,
c'est qu'on parle d'une maladie chronique qui va se traduire par une instabilité de notre humeur. Et quand je dis l'humeur, c'est au sens médical du terme, donc c'est pas juste le fait d'avoir une humeur changeante au cours de la journée, comme on peut avoir quelqu'un de lunatique, entre guillemets, abîmée. Non, on parle de phases donc, qui vont s'étaler sur plusieurs semaines quand on parle de dépression et au moins sur plusieurs jours quand on parle de phases d'excitation. Et ce sont des choses, vous le disiez très bien, qui sont chez tout le monde. Enfin, il n'y a pas de distinction de race. La prévalence de cette maladie est de l'ordre de 2 à 4 % quel que soit le pays concerné, hein, en tout cas les pays qui publient des chiffres, donc on retrouve à peu près la même prévalence partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi un sexe ratio de 1, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui souffrent de cette maladie que d'hommes qui souffrent de cette maladie.
Très bien. Alors, on le disait, c'est une maladie qui se manifesterait donc souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Vous le confirmez, docteur Lorabi ?
Absolument, absolument, même si ça n'est pas diagnostiqué, très souvent ça n'est pas diagnostiqué à l'adolescence, mais le mode d'entrée va se faire le plus souvent par une dépression qui est d'allure banale. Hein, qui est d'allure banale, c'est-à-dire on va avoir un adolescent ou un jeune adulte qui, par exemple, confronté aux problèmes de la scolarité ou à des problèmes familiaux, va développer des symptômes donc, qui relèvent de la dépression. Et justement, c'est pour ça qu'assez souvent, le diagnostic n'est pas posé au bon moment parce que quelquefois on a tendance à prendre ça pour une dépression normale, entre guillemets, c'est-à-dire une dépression réactionnelle et qui ne s'intègre pas dans un trouble bipolaire. Cependant, le fait qu'il y ait déjà une dépression à l'adolescence, ça c'est quelque chose qui nous interroge, nous les professionnels, et surtout, et d'autant plus que si la dépression est très très profonde, c'est-à-dire que si on a des caractéristiques de mélancolie, c'est-à-dire vraiment une dépression à son maximum hein, en termes d'impact, en termes de symptômes, quelqu'un d'extrêmement triste tout le temps, qui ne mange plus, qui ne se lève plus, qui ne se lave plus, pendant l'adolescence, ça c'est quelque chose qui doit faire évoquer la possibilité, donc ce qu'on appelle d'une dépression bipolaire, c'est-à-dire une dépression qui s'intègre dans un trouble bipolaire et qui va être le mode d'entrée hein, dans cette maladie. Et justement, c'est là que normalement, en professionnel, on doit s'attarder sur les antécédents familiaux. Hein, ça, je devance un petit peu votre question sur les facteurs de risque de cette maladie.
Absolument, j'y ai arrivé.
Absolument, parce que en fait, c'est une maladie qui a une très 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 forte composante biologique et génétique. Si bien que assez souvent dans l'entourage proche de la famille, c'est-à-dire de la personne, soit dans la fratrie, soit chez les parents ou les oncles et tantes ou les cousins germains, on va avoir une notion soit de dépression chronique, soit de troubles bipolaires avérés, et même quelquefois de maladies qui n'ont rien à voir comme la schizophrénie. Hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est justement la vulnérabilité génétique qui nous expose à un trouble bipolaire ou à une maladie de l'ordre de la schizophrénie est un facteur, on va dire, de risque quand on a devant nous une personne qui se plaint d'une dépression un peu trop sévère qui va apparaître pendant l'adolescence. Et c'est quelque chose qui doit nous amener, nous en tant que psychiatres, à y penser, à penser aux troubles bipolaires, et ce d'autant plus que les implications en termes de traitement sont très lourdes parce que les antidépresseurs normaux, entre guillemets, enfin les antidépresseurs, sont normalement à bannir hein, quand on suspecte un trouble bipolaire concernant le traitement. Les autres facteurs de risque, c'est notamment des facteurs environnementaux, c'est-à-dire pour faire très de manière très résumée, c'est tous les éléments qui vont représenter une somme de contraintes dans la vie quotidienne, parce que c'est ça le stress, et on sait aujourd'hui avec certitude que le stress chronique peut être révélateur de beaucoup de maladies, c'est-à-dire qu'il peut déclencher beaucoup d'épisodes de beaucoup de maladies différentes, pas seulement la dépression ou le trouble bipolaire, mais absolument tous les troubles psychiatriques. Donc évidemment, quand on parle d'une prédisposition d'ordre biologique et génétique, on peut imaginer qu'on est un peu plus fragile, justement, ou un peu plus vulnérable face aux circonstances adverses et face aussi aux traumatismes et aux chocs psychiques qu'on peut en durée.
Très bien. Alors, avant de parler donc de traitement, quels seraient les risques, si ce n'est pas traité justement à temps, quels seraient ces plus gros risques que vous craignez, vous, en tant que spécialiste ?
Alors, quand on est en phase dépressive, comme je le disais, comme souvent, ce sont des dépressions extrêmement sévères, avec un tableau clinique très marqué, le risque qui se pose là, c'est vraiment le risque d'auto-agressivité, de passage à l'acte suicidaire, et même dans certains cas, quand on est face à des personnes à la santé physique un peu fragile, et puis qui rentrent dans une... qui présente un tableau d'anorexie profonde, c'est-à-dire une absence d'appétit dans le cadre d'une dépression, là aussi, voilà, il y a un risque majeur, vital, hein, pour la survie de la personne. Pour les phases maniaques, les phases d'excitation, alors c'est très souvent, quand on parle de phase maniaque pure, il faut savoir que dans 99% des cas, c'est une indication d'hospitalisation. C'est très important parce que ce sont des périodes où on est un peu désinhibé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de frein, et où on peut se causer du tort sur le plan physique, hein, bien sûr, parce que on va peut-être se faire agresser, parce qu'on aura été un peu irrespectueux ou un peu trop téméraire, ce genre de choses. Donc se faire violenter, on peut être aussi l'auteur des violences, parce qu'il y a quelquefois des manies qui vont être sous la forme d'une espèce d'état de furie, où on va être furieux et en colère contre les gens et extrêmement agressif. Mais il y a aussi un risque financier, parce que justement, les phases maniaques, c'est quelque chose qui va se présenter avec beaucoup ce qu'on appelle de dépenses inconsidérées. Alors, ce n'est pas juste des petites dépenses. Quelquefois, ça peut être des achats immobiliers, ça peut être des ventes immobilières à perte, ça peut être beaucoup de choses. Donc, justement, la personne devrait pouvoir être protégée justement par rapport aux transactions qu'elle pourrait faire, parce que justement parmi les symptômes il y a une tendance à faire un peu n'importe quoi avec les finances. Et bien sûr, on peut imaginer que aussi l'impact d'une phase d'excitation, c'est absolument tout ce qui est possible d'imaginer quand on est extrêmement instable, c'est-à-dire perdre son travail, perdre aussi son foyer. Il y a des divorces, etc., ou des remariages qui se font à l'initiative pendant des phases maniaques. Donc c'est tout un panel de risques qu'il convient de garder en tête et qu'il convient d'essayer de traiter ou de prévenir.
Alors justement, on parlera de prévention dans quelques minutes, juste avant ce traitement. Alors vous disiez tout à l'heure que ces antidépresseurs sont à bannir.
Oui. Alors, c'est ce qu'il est usage de dire, enfin, coutume de dire en psychiatrie. Après, c'est jamais aussi simple. Quelquefois, on peut recourir à des traitements antidépresseurs. En tout cas, il faut que ce soit fait avec un spécialiste aguerri qui connaît les risques, etc. Oui. Mais le traitement le plus important d'un point de vue médicamenteux, ce sont les régulateurs de l'humeur. Oui. Hein, les régulateurs de l'humeur, ce sont principalement soit des sels de lithium, soit des traitements antiépileptiques qui ont une excellente efficacité justement pour réguler l'humeur. Ça, c'est côté médicaments. Alors, il y a d'autres types de médicaments que je ne vais pas détailler, parce qu'on peut utiliser des antipsychotiques, on peut utiliser aussi des antidépresseurs à condition qu'il y ait d'autres médicaments associés. Mais voilà, le message principal, c'est que normalement, le fait d'avoir un traitement régulateur de l'humeur déjà pour traiter l'épisode et surtout pour prévenir les rechutes. Parce que quand on parle de troubles bipolaires, c'est une maladie chronique qui va se caractériser par la multiplicité des épisodes quand il n'y a pas de traitement préventif, justement, et de traitement médicamenteux. Et l'autre très grand versant qui est aussi important que les médicaments, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Qu'est-ce que ça veut dire, la psychoéducation ? Ce sont des séances, je dirais, de formation. Hein, ça se fait sous forme de séances de psychothérapie en groupe, mais ce sont des séances de formation pour que les patients et leur entourage qui souffrent donc de cette maladie, d'abord, aient toutes les informations inhérentes aux différentes phases et toutes les informations inhérentes aux différents médicaments, quelle est leur utilité, comment est-ce qu'il faut manager les traitements quand il commence à y avoir des symptômes dépressifs, comment est-ce qu'il faut manager le traitement quand il commence à y avoir des symptômes d'excitation, donc en attendant de voir le médecin. Et c'est extrêmement important parce que justement, quand on parle de troubles bipolaires, et comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux risques de la phase maniaque, les risques financiers, familiaux, etc., sont des choses qui sont finalement pas très connues, surtout par l'entourage du patient. Et souvent, suite à des petites choses comme ça, bon, il y a de l'incompréhension, il peut y avoir des conflits familiaux qui apparaissent parce que on est à 10 000 lieues de se douter que on est en train d'assister à une rechute qui est en train de se constituer et que ce sont les premiers symptômes qui sont en train d'apparaître. Donc, c'est tout ce qui a trait donc à la gestion de la maladie, au sens très large du terme, qui va être un petit peu présenté par des gens qui animent ce genre de groupe de psychoéducation et donc qui va permettre un meilleur contrôle et en tout cas une meilleure réponse du patient et de son entourage face à l'apparition de symptômes.
Très bien. Alors, prévenir, peut-on dire que c'est possible dans ce cas-là, docteur Lorabi?
Oui, on ne prévient pas l'apparition de la maladie, mais en tout cas, on peut prévenir les rechutes, hein, parce que le paramètre qui est extrêmement important, c'est le nombre de rechutes. On peut imaginer que quelqu'un qui a un trouble bipolaire et qui aura fait que 3 épisodes dans toute sa vie n'aura pas été impacté négativement de la même manière que quelqu'un qui fait 1 ou 2 épisodes par an. Et la prévention, donc il y a c'est aussi ce que je vous disais par rapport à la psychoéducation, le fait d'avoir un traitement médicamenteux adapté, ça c'est très important, ça rentre dans le cadre de la prévention. Mais il y a aussi plus que n'importe quelle autre personne une nécessité absolue d'avoir une hygiène de vie extrêmement saine, à savoir respecter ses temps, son temps de sommeil, quand je dis le temps de sommeil, c'est le sommeil la nuit. Ça pose particulièrement problème pour les gens, par exemple, qui sont ouvriers dans des usines, qui font la rotation des 3 à 8 et qui sont en équipe de nuit. C'est un véritable problème. Mmh. Donc, c'est le sommeil. C'est le fait d'être totalement abstinent par rapport à la consommation de drogue, même les drogues douces. C'est le fait aussi d'être abstinent par rapport aux consommations d'alcool, parce qu'on le sait aujourd'hui, les consommations d'alcool sont des facteurs de risque de rechute. Et puis, tout ce qui a trait, je dirais, au bon sens quand on parle d'hygiène de vie, c'est-à-dire une activité physique régulière qui va permettre de mieux gérer le stress et une alimentation saine. Hein, ce d'autant plus que certains médicaments peuvent induire des petites modifications de l'appétit et des prises de poids. Et c'est d'autant plus important de faire attention à ce qu'il y a dans son assiette.
Docteur Othman Lorabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie. Vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique Casablanca. Merci beaucoup, docteur,
merci à vous
d'avoir été avec nous ce matin.
Au revoir.
Et c'est un entretien réécoutable sur notre site medien.com.